Stadium Ligue 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Stadium Ligue 1, le podcast qui parle du meilleur championnat d'Europe, du monde et de la galaxie. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, parce qu'aujourd'hui, c'est le deuxième épisode du Chant des supporters, donc on va parler d'un autre club, et on va parler du Stade Rennais. Voilà. Petite introduction du Stade Rennais, donc c'est un club qui a été créé en 1901 par un groupe d'étudiants, avant c'était un club intersport, il se présentait notamment dans un maillot bleu ciel et marine, principalement des compétitions régionales. Ensuite, ils ont fusionné avec le Football Club de Rennes en 1904 et c'est là où ils ont commencé à adopter leurs couleurs qu'on leur connaît aujourd'hui, donc le rouge et le noir. Ils se professionnalisent en 1932, mais c'est qu'en 1905 qu'ils vont gagner leur première Coupe de France. C'est le premier club breton d'ailleurs qui y arrive, donc une première participation à une compétition internationale. Enfin, en 1971, une deuxième victoire en Coupe de France. À partir de 1972, le Stade Rennais FC est né et il se détache de la structure Omnisport. Ensuite, ils vont connaître des années noires entre 1972 et 1998 avec notamment une faillite, enfin en tout cas au bord de la faillite en 1978, donc grosse période d'austérité, des allers-retours en première et deuxième division. Enfin, en 1993, l'arrivée de nouveaux investisseurs, Didier Nautto, et d'un nouveau sponsor, le groupe Pinot, qui va racheter le club en 1998. Et aujourd'hui, pour parler de Rennes, j'ai avec moi Kylian. Kylian, bonjour à toi, comment tu vas ?
Bonjour Testy, ouais, ça va très bien. Avec plaisir de parler du Stade Rennais, notre cher club du Stade Rennais.
Nickel, merci à toi Kylian de m'accompagner aujourd'hui et merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Kylian, on va commencer gentiment. On a envie de savoir comment elle a commencé cette histoire avec le Stade Rennais.
Bah, je pense que en tant que Rennais pure souche, on a un peu la mentalité d'avoir supporté son club. Donc moi, j'ai commencé à écouter les matchs sur France Bleu Armorique, donc la radio locale de chez nous, on va dire, si tu veux. Les matchs, ils n'étaient pas forcément diffusés facilement comme aujourd'hui. Donc en fait, c'était la radio. J'écoutais ça avec mon grand-père. Et ensuite, forcément, tu commences à te prendre au jeu du football. Quand tu as 5-6 ans, voilà, tu commences le sport. Le foot, tu deviens vite piqué sur ce sport-là, et encore plus après sur le Stade Rennais. Donc j'ai commencé mon premier match, je m'en souviens encore, c'était en 2002, avec Petr Stedge dans les buts. C'était un gros match, hein, Rennes 3, un bon 0-0 des familles. Donc voilà comment tu deviens piqué au Stade Rennais avec un bon 0-0. C'est quand même compliqué à se dire, hein. Mais sauf que c'est un truc qui te dit « Ok, j'ai envie de continuer cette aventure-là ». Et donc, ça va faire maintenant, j'ai 28 ans, ça va faire 23 ans que je suis abonné tous les ans au Stade Rennais.
Ah ouais, toi, t'as été biberonné direct, pas d'autre solution, t'allais être Rennais, quoi. C'était le Stade Rennais.
C'était le Stade Rennais, ouais. C'était, bah, nous, quand on était gamin, t'étais dans la cour d'école, t'avais des maillots du Stade Rennais, pas forcément au début, mais en fait, ça arrivait assez vite. On va dire qu'à partir de 7-8 ans, tous les gars avec qui tu faisais du foot, ils avaient tous son petit maillot Stade Rennais. Donc, au premier maillot, il y avait écrit encore Pinot dessus, mais c'était vraiment des maillots à l'ancienne. Mais voilà comment tu deviens un peu amoureux du Stade Rennais. Et après, j'ai fait plusieurs tribunes. J'ai commencé par les tribunes un peu calmes. C'était un ami à mon grand-père qui m'emmenait, parce que mes parents, pour la petite anecdote, détestaient le foot. Mais vraiment, mon père voulait pas en entendre parler. Et maintenant, ils sont abonnés, toute ta famille est abonnée, sauf une de mes sœurs, en tribune Mordel, donc en tribune RCK, tu vois. Donc, comme quoi, ouais, le petit gamin, il a fait du chemin et on a réussi à convertir toute la famille.
Bah justement, bonne introduction, on va en venir. Toi, tu fais partie d'un club de supporters, donc le RCK, Roison Celtic Cup, donc qui a été créé en 91. Ouais. Il y en a deux autres, il y a Aller Rennes qui a été créé en 62 et les Socios en 92. C'est les trois plus gros, si je me trompe pas.
Ouais, c'est ça. En fait, okay. On a les Socios qui sont en virage, donc bon, eux, ils mettent une bâche, voilà, des Socios. Ils organisent des déplacements, mais c'est pas ce qu'on entendra dans le Stade Rennais. Après, il y a le COP Aléren, donc qui est situé en face du RCK, qui grandit petit à petit. C'est plus les anciens, même si ça commence à se moderniser un peu, on va dire. Donc, ils ont des petits tambours. Enfin, voilà, on a Guigui qui tente souvent de faire des holas avec Michel. Mais voilà, c'est forcément plus petit. Mais voilà, le RCK aussi a tellement grandi que maintenant, ça reste et ça restera, je pense, le groupe numéro un du Stade Rennais.
Ok. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'intégrer dans ce groupe?
En fait, moi, j'ai rencontré des gars quand tu es au lycée, donc tu as, on va dire, 15 ans, 15-16 ans. Tu commences à aller. Mes parents venaient au stade déjà, j'étais en tribune juste au-dessus du RCK. Et donc, bah, tu fréquentes les gens de ton lycée, et ces gens-là étaient déjà en tribune RCK. Donc, en fait, je quittais mes parents, je leur disais, bon, on se revoit à la mi-temps, on se revoit à la fin du match, mais moi, je vais avec mes potes. Et au final, quand tu commences à faire des matchs en tribune, bah, c'est compliqué, c'est franchement très très dur. Même maintenant, on n'y arrive plus, hein, à retourner sur un match où t'es forcément assis ou quelque chose comme ça. Et donc, de fil en aiguille, bah voilà, tu vas voir tous tes matchs à domicile. Après les cours, tu vas aller en prépa tifo, tu vas aller donner un petit coup de main à ceux qui bossent là-bas. Tu vas boire un petit coup au local. En fait, tu fréquentes, ça devient un peu une seconde famille si tu veux. Donc, quand t'as 15-16 ans. Bah, c'est cool, tu fréquentes des gens qui en ont 25, qui en ont 40, t'apprends beaucoup sur la vie. Au final, c'est plus un parcours de vie, des expériences que vraiment juste aller voir un match de foot. Tu vois, on passait des week-ends ensemble, tu vas voir les matchs, tu vas faire des prépa tifo. Enfin, c'est cool, franchement, c'est comme ça. Et j'aurais du mal à voir autrement le football que avec une tribune debout.
Ok. Et du coup, ça se passe comment la relation entre les clubs de supporters et la direction? Il y a des échanges, il y a des choses qui sont faites ensemble. Ça, voilà, les relations sont plutôt bonnes.
Alors ouais, les relations sont bonnes. Faut savoir que le RCK, c'est un groupe indépendant. Donc, en fait, on n'a aucun lien avec le Stade Rennais. Donc, on n'a aucun financement, si tu veux, par le Stade Rennais pour nous. Les seules façons, on va dire, de rémunération, c'est les cartes adhérents du Stade Rennais. Voilà, c'est le local avec les boissons. Tout est financé comme ça, si tu veux. Tout ce qui est tifo, il faut savoir que les tifos aussi, tout est fait à la main. On entend souvent parler sur le Stade Rennais, voilà, on achète des trucs tout faits. Enfin, c'est voilà, nous c'est vraiment fait tout à la main. Après, avec les autres relations entre les autres, bon, on se croise en déplacement ou des choses comme ça quand on fait des cartes, mais après on n'a pas forcément de relation, si tu veux, avec Aléren ou les socios non plus. Nous, on a vraiment le RCK, il est là qui commence à vraiment avoir beaucoup beaucoup de monde. Donc, on essaye de gérer au mieux, même si, bon, maintenant, moi, j'y suis un peu moins parce que je me suis un peu exilé. Mais pour le coup, je vais pas voir non plus des matchs où je me suis exilé. Hein. Je reste fervent supporter du Stade Rennais et je bougerai pas là-dessus. Mais voilà un peu comment ça se passe chez nous.
Ok.
Donc,
Ok,
voilà,
ok.
c'est vraiment les déplacements. On peut avoir des aides. Voilà, par exemple, quand tu fais un déplacement, tu préviens le Stade Rennais, voilà, il y aura tant de cars. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, ils sont en relation avec l'autre club, c'est eux qui gèrent. Mais nous, on n'a pas franchement de grosses relations. Après, voilà, il peut y avoir des relations qui sont assez cordiales quand même. Quand, par exemple, il y a des choses à dire sur le sportif ou des choses comme ça, il peut y avoir des, pardon, des relations, si tu veux, avec le directif. Par exemple, là, on y a eu le cas cette année où c'était pas forcément très glorieux au niveau sportif. Bah, il y a Mandanda ou des choses comme ça qui sont venus parler avec les supporters pour justement, voilà, prendre la température, qu'on reste motivé aussi derrière eux, quoi.
Ok.
Parce que sans la tribune, sans le RCK, je pense que le Stade Rennais, c'est un public qui est particulier. On est plus spectateur. Enfin, je pense qu'en fait, la région est plus spectateur que vraiment supporter.
Ok.
Et ça, s'il n'y avait pas eu RCK, je pense qu'il y a des. On a connu des années hein, où c'était en boycott ou des choses comme ça. Et bah, les matchs, ils étaient longs. Ils étaient très longs.
Je peux comprendre, je peux comprendre. C'est vrai que bon, on va dire en Bretagne, hein, la tâche qu'ont les supporters pour leur club est assez spéciale. Et en Bretagne, il y a quand même pas mal de clubs, donc ça fait pas mal de rivaux. Il y a le, voilà, le FC Nantes, il y a eu Guingamp, aujourd'hui, il y a encore Nantes, ou Lorient et même Brest. Et on peut même ajouter Le Havre. Pendant un moment, il y avait une sorte de petit championnat de Bretagne, hein, savoir quelle était la meilleure équipe de Bretagne, ou c'est retombé ça un peu?
Non, en soi, je pense que d'ailleurs, on est peut-être une des régions les mieux représentées en Ligue 1 à l'heure actuelle.
Je pense, ouais.
Parce qu'on a là, on a quand même, bah voilà, comme tu disais, Lorient, bon, même si c'est un peu compliqué avec eux, enfin, pour eux cette année, il y a Brest, il y a Nantes, il y a Rennes, Laval qui tourne plutôt pas mal non plus en Ligue 2. Donc, en soi, on est quand même bien représenté. C'est une vraie terre de football, en fait, la Bretagne. Mais oui, il y a toujours ce mini championnat de qui finira champion de Bretagne. C'est toujours un plaisir de battre les rivaux et encore plus Nantes pour le coup.
Ouais, j'ai compris
Nantes, en
qu'avec
fait,
Nantes, c'était compliqué,
c'est le match qui est coché deux fois dans le calendrier dès le début de la saison en se disant bah voilà, même les gars, enfin les joueurs, je pense qu'ils le savent aussi. C'est en fait, on a beau faire une saison de merde ou quoi que ce soit. Par exemple, il y a une saison où on perd quasiment tous nos matchs jusqu'au sixième match où on joue Nantes, mais par contre, on bat Nantes. Donc au final, ça pardonne un peu, on va dire, le début de saison qu'il aurait pu avoir. Si on avait perdu contre Nantes, là par contre, ça aurait été vraiment compliqué.
Ok, ah ouais, donc Nantes, c'est
Après,
les rivaux, quoi.
c'est ça. Après, Lorient n'a pas forcément de rivalité avec eux. En fait, ils font un peu leur petit bout de chemin. Guingamp, bon bah Guingamp, on a le passif Coupe de France qui est assez
Ouais.
compliqué, mais au final voilà,
Deux fois,
bon, on les a
c'était, je
battus.
me souviens plus des années,
Ouais, c'est
mais
ça. Ouais, si,
c'est deux
c'était
fois perdu.
2009 et 2014
Ouais.
ou 2013, et Saint-Étienne en 2014 ou 2013, je sais plus. On perd trois finales en l'espace de 5 ans. C'est pas évident.
Ouais, non, c'était pas évident, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok,
Mais
ok,
aussi, la petite anecdote quand même, c'est que en soi, après notre deuxième défaite contre Guingamp, bon déjà les Guingampais, ils étaient sûrs qu'ils allaient perdre. Hein.
ok.
Vraiment, on s'entend plutôt assez bien. Hein. Franchement, c'était beau à voir, hein. Un Stade de France rouge et noir. Voilà, c'est la Bretagne qui gagnait en soi. Même
Ouais.
si, bon, en tant que supporter, on va dire fervent supporter, que la Bretagne gagne, moi ça m'importe peu. Je voulais que ce soit Rennes.
J'imagine.
Mais voilà, il pensait vraiment vraiment perdre, et au final on s'était dit bon, ça se trouve ça va nous mettre au fond du trou, les gens ils vont plus venir supporter Rennes ou quoi que ce soit, et on a remarqué que c'était là où on avait récupéré le plus d'adhérents après en tribune après la défaite contre Guingamp. Donc en soi, les gens sont peut-être pas révoltés, mais ils se sont dit non, mais c'est pas possible. Là, ça fait quand même 3 fois en 5 ans qu'on n'est pas loin d'y aller. Il y a un moment, ça va passer. Et après, bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et on a fait du Stade Rennais, quoi.
Ok. Et il y a un point aussi, voilà, ce que je voulais aussi aborder avec toi, c'était la culture bretonne, à quel point elle était ancrée dans le Stade Rennais. C'est vrai que c'est assez particulier, puisque quand je regardais un peu, au final, je me suis rendu compte que l'hermine du logo, c'était aussi un symbole en Bretagne.
C'est ça.
Et à la mi-temps, vous avez des spectacles de Bagadou. Je sais pas si je prononce correctement.
Si, c'est ça.
De temps en temps, et même le chant. Voilà, c'est le chant officiel de la Bretagne. On voit qu'il y a des investisseurs aussi qui sont impliqués. Alors, dis-moi si j'ai tort, mais j'ai vu que Pinot, le fils, il jouait pour les équipes de jeunes.
Là-dessus, je peux pas te dire, j'ai pas cette ref-là.
Ok. Bon, on
Mais
pourra pas le
c'est possible.
vérifier. Donc,
C'est
ouais, non,
possible.
la culture, elle est quand même bien ancrée dans le club. Toi, tu le ressens comment, ça?
Bah ouais, avant chaque début de match, on a le Brogoz Masadou. Alors, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans le stade qui parlent breton.
Ouais.
Mais par contre, tout le monde connaît le chant par cœur, en fait. Donc, en fait, c'est un chant auquel on s'identifie. Ça représente la Bretagne, ça représente pas forcément Rennes. Je pense que ça représente, voilà, Brest, Lorient, peut-être un peu moins Nantes. Et encore, c'est Nantes historiquement, voilà, ça reste en Bretagne, mais on va dire qu'à Rennes, oui, voilà, comme tu dis, il y a l'Hermine, c'est sur le logo du Stade Rennais, t'as le Brogoz Mazadou, c'est quelque chose, même sur les côtés du stade, il y a des drapeaux bretons en fait qui sont tout le long. Enfin, on est vraiment attaché à notre Bretagne. Et ça bougera jamais. Et après, François-Henri Pinault, il est de Dinard, donc voilà, il est aussi du coin. Ça joue aussi. Ça a été un investisseur local, pas comme dans certains clubs où, par exemple, je sais pas, je dis Troyes avec Manchester City ou des choses comme ça. Nous, on a eu la chance d'avoir un investisseur local qui croyait vraiment au projet, qui voulait que ce soit un club familial et bretonnant et qui respecte la culture de la région. Donc, franchement, c'était top. Et ça reste
Bah,
toujours top.
c'est top que tu parles de Pinot. Du coup, on va s'intéresser au club et en fait, on va s'intéresser à l'arrivée de Pinot. Donc, on va se concentrer sur la période, voilà, moderne, donc début des années 2000 du Stade Rennais. Donc, voilà, Pinot, nouvel investisseur et nouveau propriétaire du Stade Rennais. Au début, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a quand même des gros investissements qui sont faits. J'ai vu qu'il y avait des joueurs à 10 millions qui avaient été achetés. Enfin, à cette époque, c'était plutôt pas mal, mais il n'y a pas vraiment les résultats. Ça va vraiment commencer à partir de 2004, où là, bah, vous faites quand même des recrutements. Enfin, j'ai l'impression que voilà, Rennes est passée dans une nouvelle phase, puisqu'il me semble que vous avez un nouveau centre d'entraînement aussi. Donc vous faites des recrutements intelligents comme Karlstrom, Petr Čech. Vous arrivez à vous appuyer aussi sur votre centre de formation. Ça c'est plutôt pas mal avec enfin des joueurs comme Fatih. Vous avez eu du Briand qui sont passés, des Monte Rubio, Vérel, Wiltord. Enfin cette première période voilà de l'ère Pinot jusqu'à à peu près 2012 où le Stade Rennais joue quand même le haut du tableau. Quatrième, sixième, vous jouez quelques coupes continentales. Toi, tu le vis comment? Surtout si t'es, voilà, premières années, t'es quoi, début d'adolescence, tu vas déjà au stade. Tu vis comment cette
Ouais,
première période
ben,
de Pinot, qui est quand même assez prometteuse?
cette période-là, ouais, c'est des gros recrutements, en fait, sud-américains qui floppent
Ouais.
totalement. Il y a du Turdot, des choses comme ça. En fait, la seule recrue, on va dire, de la première année de Pinot, qui fonctionne, c'est Štech. Donc, au final, bon, clairement, on sait la carrière qu'il a eue. Il fait quand même 78 matchs au Stade Rennais, Štech. Il a effacé, on va dire, un peu. Les recrutements un peu foireux, parce qu'il y a eu du Fabinho aussi quand même qui est passé chez nous. Fabinho, on se rappelle à Rennes que bah, ça a été un flop total. Après à Séville, voilà, il a mieux marché. Mais là, en fait, Pinot, il s'est dit, c'est pas comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Il a bien vu que c'est pas un coup de million que ça allait fonctionner. Après, il nous ramène, voilà, comme tu dis, du Karlstrom. On s'appuie sur notre centre de formation. On récupère Monte Rubio chez le rival nantais. Au début, Monte Rubio, c'était compliqué pour lui de s'acclimater parce que bah, forcément, il se faisait siffler. On récupère aussi et surtout le joueur qui nous a tous marqués et qui restera, je pense, la légende en soi du Stade Rennais, on va dire, à l'heure actuelle, c'est Alexander Frey quand même. Alors, il n'a pas fait très très longtemps chez nous, mais c'est quand même deux fois meilleur buteur de la Ligue 1. C'est lui qui nous emmène en Europa League, enfin, avec l'autre équipe, hein, parce que voilà, clairement, Karlstrom, ça jouait aussi. T'avais, comme tu dis, du Fatih, t'avais des joueurs qui sont en formation, il y a eu du Réveillère aussi qui est passé par le centre de formation du Stade Rennais. Il y avait du Marvaux, du Sylvain Marvaux, enfin, c'était des joueurs, franchement, qui étaient beaux à avoir joué. Et puis Bologna, bah, là, il fait quand même encore du bon boulot, et Bologna à Rennes, ça a été une révolution. Avant, on était sur du Ali Lodzic. Ali Lodzic, c'était à la rude, du style on ferme la boutique, on joue pas au football. Il était là pour stabiliser un peu le club, si tu veux. Bologna, on a commencé à vraiment jouer au foot. Et après, quand tu as une connexion Monte Rubio Fry comme on pouvait avoir, bah, ouais, t'étais obligé de casser toutes les équipes. Je me souviens, il y a des matchs contre Marseille où on fait 4-4 ou des choses comme ça. Il y a quadruplé de Fry. Enfin, c'était. Ouais. T'avais une grosse équipe après, bah, première épopée européenne, on fait zéro pointé,
Ouais.
on perd tous nos matchs. Bon, après, voilà, c'est l'apprentissage, hein, on va dire. Tu peux pas arriver maintenant, enfin à l'époque, hein, je pense encore plus à l'époque, tu peux pas arriver et dire ok, bah je vais finir deuxième. Je crois qu'on prend quand même un 5-1 contre le PAOK Salonique. Bon, enfin voilà, on voit bien que le Stade Rennais a évolué, ça a été à son rythme. Mais par contre, dès qu'il y a eu les ambiances Coupe d'Europe, je me souviens, il y avait Montagnot encore sur une autre époque, où il y a un but, c'était contre une équipe espagnole. Vraiment, le stade, il a vibré. C'était un truc de malade. Et en fait, c'est là que les gens, je pense, se sont rendu compte qu'il y avait quelque chose au Stade Rennais à faire et qu'il y avait une équipe qui tournait et que si le club était bien géré, avec un bon actionnaire, chose qui est faite maintenant avec Pinot, il y avait moyen d'aller chercher quelque chose sans claquer forcément des millions, sans être le PSG ou quoi que ce soit, mais à notre échelle, faire notre petit bonhomme de chemin et réussir à faire kiffer toute la Bretagne, parce que la Bretagne, si tu ramènes c'était comme Atlético d'ailleurs. Si tu ramènes des matchs comme l'Atlético, les gens ils attendent que ça, de vibrer, de quand je vois les ambiances en Coupe d'Europe maintenant, bah, les gens c'est un truc de fou. Le stade il est plein. Franchement, je sais pas ce qu'un joueur peut ressentir dans un stade comme ça quand il est chauffé à blanc là, mais ça doit être impressionnant.
On va y revenir un peu plus tard justement à la Ligue des Champions. Avant ça, avant cette période, bah, un peu plus faste, on va dire, du Stade Rennais, il y a quand même eu un petit creux. Voilà, à partir de 2012, c'est des résultats qui sont plus décevants, plus de compétition continentale. Il y a cette fameuse défaite en coupe face à Guingamp, du coup c'est en 2014, et Saint-Étienne 2013. Là, en tant que supporter, on se sent comment? On se dit, voilà, on est dans le trou, quand est-ce que ça va s'arrêter?
Franchement, ouais, là c'était, on va dire que c'était une période vraiment hyper compliquée, même pour nous, on va dire en tribune, parce que en fait, on avait l'impression que c'était le Club Med, le Stade Rennais. En fait, tu vois, ça finissait neuf, ça fin... non, mais vraiment, ça finissait neuvième, c'était ventre mou toute la saison. En fait, il se passait pas grand-chose, on va dire, ou alors on jouait bien sa première partie de saison. Après, on commence à s'écrouler et on commence à revenir sur les dernières journées. Mais au final, bon, voilà, tu finissais à une 9e, 12e place. Alors, on faisait des petits parcours en coupe. On pouvait arriver en demi-finale ou des choses comme ça. Donc, au final, les saisons, on les oubliait un peu parce qu'on disait, ouais, on a failli aller en finale de coupe nationale. Mais par contre, quand il y a plus d'Europe, bah, on voyait bien, hein, franchement, au niveau affluence. J'ai pas les chiffres là en tête, mais je pense qu'on devait tourner sur du 15 000 de moyenne. Maintenant, on est blindé, c'est plein à tous les matchs. C'est même compliqué d'avoir des abonnements maintenant. Mais c'était une période où vraiment on se disait, est-ce que un jour Rennes va sortir la tête de l'eau? Parce que, alors, on faisait des gros matchs, hein, contre les grosses équipes. Je crois qu'on perd une fois en demi-finale contre le PSG 3-2. Enfin, on était capable de le faire, mais par contre les petits, ou dès que Rennes pouvait faire, on va dire, un décalage au classement, la bonne opération, on va dire ça, la bonne opération, et ben Rennes, ça s'écroulait, mais genre tout le temps. C'était tout le temps la même chose. Si tu savais que si tu voulais parier, tu avais un match où Rennes pouvait gagner 3 places, Rennes allait perdre. C'était tout le temps comme ça. Et après, franchement, les finales, la finale contre Saint-Étienne en Coupe de la Ligue, on y va parce qu'il faut y aller et qu'on supporte Rennes. Mais même nous, dans notre tête, on n'y croit même pas, quoi. Enfin,
Ouais.
on
Bah,
dit, ouais,
surtout que
bon,
c'est
bah,
un
voilà,
synthé qui
c'est.
est en forme à cette époque, quoi.
Ouais, bah, t'as du Obam, il y a du Brandao, je crois. D'ailleurs, je crois qu'on prend un but. Je sais plus si c'est Obam ou Brandao qui marque. On perd 1-0, c'est un match pourri en plus. Enfin, bon, en fait, c'était, bon, la Coupe de la Ligue, hein, la Coupe qui servait pas grand-chose à part aller en Coupe d'Europe en l'espace de 4 matchs.
C'est
Mais
ça.
bon, franchement, c'était une période. Et puis en plus, ça jouait pas forcément bien. Je me souviens, on avait des joueurs, c'était du Canabic. Enfin, ça fait pas forcément rêver non plus, pour citer que lui. Il y avait du Montagnier, alors que Montagnier sortait d'une saison de fou à la Real Sociedad où il finit troisième avec Griezmann. Et chez nous, bah, rien, rien. Donc ouais, c'était en fait on a été content après du changement de direction parce qu'en fait on avait l'impression qu'il y avait des petites mains un peu dans l'ombre qui faisaient que voilà, Rennes c'est cool, et on n'a pas besoin de les brusquer, ils font leur match, ils font finir 9e comme tous les ans, et puis voilà, il n'y avait pas d'ambition en fait dans ce club.
Ok. Et donc du coup, après, on va dire cette période-là, comme tu le dis, changement de direction, on arrive dans les années, 2017, 2018, les temps arrivent au sein de la direction rennaise. Alors moi, de ce que j'ai lu un peu en regardant, est-ce que on peut dire que les saisons 2017-2018 et la saison suivante, donc 2019, 2020, c'est les meilleures saisons du FC Rennes. Puisque il y en a une en 2017-2018 où vous finissez cinquième, et la saison 2019, c'est là où vous gagnez, enfin 2018-2019 où vous gagnez la Coupe de France. Est-ce qu'on peut dire que c'est les deux meilleures saisons du Stade Rennais sur le 21e siècle?
En fait, l'arrivée de l'Étang, c'est un personnage clivant. Je crois qu'il vient du PSG d'ailleurs quand on le
C'est
récupère.
ça,
C'est un personnage, il a mis, on va dire, de l'ordre dans la boutique. C'était là, le Club Med, ça a été terminé. C'était, tu veux pas jouer ou tu bouges pas tes fesses, bah, tu vas aller sur la touche. Et puis, si vous perdez un match, je sais pas, je vais te dire une connerie, mais contre 3. C'est considéré comme une faute professionnelle, et bah, vous n'allez pas avoir deux jours de repos. C'est lundi, vous êtes à l'entraînement à 8h et vous allez courir. Donc, je pense que on avait besoin de ça à Rennes. Alors, il n'a pas fait très très longtemps, hein. Il a fait 2 ans et demi, je crois,
Ouais,
l'étang.
c'est ça.
Mais au final, je pense que tu peux demander à n'importe quel Rennais, on va le remercier. L'étang, franchement, s'il n'avait rien fait, on aurait pu rester comme ça longtemps, hein, à faire des 9e places, des 10e. Il y avait besoin d'une réorganisation au sein du club. Après, dire que c'est les meilleures années, je ne sais pas. Parce qu'en soi, oui, on finit 5e. La deuxième, enfin, là, quand on gagne la finale Coupe de France, bah, là, clairement, c'était l'année de fou. Mais si tu regardes au classement, bah, ça finit 9e, Rennes. Mais par contre, t'as une épopée en Coupe d'Europe, tu gagnes la finale. Alors ouais, bah oui, pour moi c'est la meilleure année, on va dire, en termes de chiffres, mais par contre le classement, tu vois, on l'a oublié.
Ouais,
Mais
c'est ça, c'est assez paradoxal.
niveau émotion, bah ouais, franchement, on avait fait les déplacements. Pour moi, ça reste les meilleurs déplacements que j'ai fait là, en ce moment. Alors, quand tu vas à Jablonec en mois de janvier, il fait moins 10, t'es avec tes potes, tu vas voir un match, tu passes le week-end à Prague, et puis après, derrière, tu sors le Betis Séville avec un match de fou à l'aller où on fait 3-3 au Roazhon Park, et derrière, on va mettre 3-1 chez eux au Betis. Et là, le but de Niang à la fin, c'était une délivrance pour tout le monde. Il y en avait plein dans les tribunes qui étaient en train de pleurer, c'était Rennes devenait, quittait, on va dire, son statut de loser. Et derrière, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, du Stade Rennais, on va perdre 2-0 au bout de 30 minutes de jeu contre le PSG avec un but de Alves et Neymar. Et après, Kimpembe, Dieu merci d'avoir été là, qui nous met le
Justement,
petit but contre son camp.
justement, c'est bien que tu as introduit ce match, je voulais qu'on se concentre dessus. Je voulais te passer un petit son de ce match. Bon, ça m'a fait
Ouais.
mal au cœur de le faire, de préparer ce moment, je te l'avoue, en tant que supporter du PSG, mais voilà, professionnalisme, on va dire. Donc du coup, voilà, comme tu dis, 2-0 et ensuite 2-2 deuxième mi-temps. Du coup, on est au tir au but. Et là, c'est Nkunku qui se présente, il me semble, et ça donne ça.
Ouais.
Et c'est raté, c'est au-dessus, et le Stade Rennais qui emporte sa troisième Coupe de France.
Ça fait mal.
Ah bah ouais,
Mais
mais
pour
tu
vous,
vois, j'avoue.
c'était comment pour toi? Ça doit être
Ah
incroyable.
mais rien que réécouter, ça m'arrive souvent, hein, de réécouter juste la bande son avec Larqué et tout ça, genre sur tout le match, parce que t'as le but de Alves, t'as le but de Mecher, mais ça nous donne toujours des frissons. Koubek qui fait son sprint, il a jamais couru aussi vite de toute sa vie, il part du but adverse pour arriver chez nous en 12 secondes. En fait, c'était une folie. Et pour en avoir parlé, enfin, pour avoir échangé, ça reste le moment le plus marquant, je pense, pour nous tous. Mais en fait, limite, c'est un blackout de l'espace de, je sais pas, 40 secondes où t'oublies ce qui se passe autour de toi. T'es désemparé, en fait. Mais moi, tout le monde était en train de pleurer, tout dans les tribunes. Tu disais, mais non, c'est pas possible, ça y est, on a enfin réussi à gagner un trophée. Et surtout contre le PSG. En perdant 2-0, enfin, en fait, pour te dire, hein, franchement, on allait au match, on se disait, bon, PSG en finale, Coupe de France, encore une défaite, on voit le début du match, 2-0, on se dit, oh, vas-y, putain, ils en font exprès, c'est pas possible. Et après, bah ouais, Kimpembe qui met son but, mais cher, même la causerie de Stéphane, franchement, à la mi-temps. Elle est mythique. Quand il dit, ouais, vous les mangez dans la main, là, ils ont peur, ils sont en train de reculer, vous allez y arriver. Et au final, bah, on arrive à gagner ce match avec Mbappé, je crois, qui fait un poteau en prolongation, qui prend rouge après en prolongue. Tu dis, ouais, mais en fait, il y avait des planètes qui étaient alignées pour nous à ce moment-là. Donc, ouais, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là parce qu'on est parti directement après faire la fête, célébrer le titre, place du Charles de Gaulle. On a fait un peu dans tout le centre-ville de Rennes, en fait. Mais c'était une marée rouge et noire. Enfin, en fait, même la ville n'avait pas prévu à cette place, enfin, et qu'il soit autant débordé, en fait. C'était tout Rennes qui était dans la rue. C'était impressionnant, franchement. C'était un des meilleurs moments de ma vie. Hein.
Ouais, et j'ai revu
C'est
les
tout.
images du coup le lendemain quand ils reviennent pardon à l'accueil et j'ai cette image de l'étang aussi qui se balade dans la rue avec la coupe. On sentait que
Ouais.
c'était un moment spécial quand même.
En fait, c'était tellement attendu. Ça faisait depuis 71 qu'on n'avait pas gagné une coupe. Enfin, trois fois qu'on la rate. Surtout contre Guingamp la première fois. Franchement, on doit jamais la perdre. On gagne 1-0, but de Bocanegra. On prend doublé d'Eduardo. Le
Fini
but
2,
d'Eduardo, je crois qu'on le prend. On le prend 1 minute 30 après que Bocanegra ait marqué. Même nous, on était encore en train de fêter le but et on voit déjà 1-1. On se dit, putain, mais il y a un bug d'affichage. Comment c'est possible? Non, en plus Guingamp qui est en Ligue 2, qui tourne pas non plus des masses en Ligue 2 à ce moment-là. Et nous, bah, on arrive à perdre. Enfin, là, en fait, c'est là que tu vois comment était le Stade Rennais. Donc, voilà, capable de perdre contre une équipe de Ligue 2 en finale de le match qu'il faut pas perdre. Et puis derrière, bah, tu vois qu'ils peuvent gagner contre le PSG en finale en perdant 2-0 contre les Neymar, Mbappé, Alves. Enfin, c'était une équipe de folie aussi en face du PSG. Et
complètement.
clairement, sur le papier, on doit se faire manger. Mais le Stade Rennais est tellement imprévisible que voilà, c'est pour ça qu'on aime ce club en fait. C'est que tu vas au match, je pense que quand tu es supporter de Paris, tu dis bon, allez, on va dire que tu as 70-80% de chances de voir une victoire. Tu vois. À Rennes, tu sais pas. À Rennes, à tout moment, au bout de 10 minutes, tu vois déjà s'ils sont un peu dedans ou pas dedans, mais ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. C'est ça qui est beau dans ce sport et dans ce club. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de jeunes maintenant. Je fais du foot un peu en club et ils sont tous avec les maillots du Stade Rennais. Ils ont 4 ans, 5 ans. C'est devenu le club, on va dire, de la Bretagne. Même sur Brest, où je vois des gens courir avec des maillots du Stade Rennais. C'est devenu, on va dire, le club référence, le club qui travaille bien. Et comme tu disais tout à l'heure sur la Pivardière, on sort des joueurs tous les ans. Enfin, c'est devenu limite insultant. En fait, il y a des fois, on se dit, mais non, mais l'année prochaine, c'est sûr, ils ne sortiront pas un joueur comme ça. Mais quand tu sors du Camavinga,
Ouais,
Dembélé,
Camavinga, Dembélé, Mvilla, même à l'époque, c'est quand même pas mal.
Mvila, il était impressionnant.
Ouais. T'as du Doucouré,
Ouais,
là,
Doucouré qui tournait bien en PL. Enfin, en fait, tous les ans, t'as un gars. Bon, maintenant il y a du Omari, c'est un peu plus compliqué cette année. Mais en défense centrale, normalement, ça fait le boulot. Enfin, c'est à Signon. Je pense qu'on est une des équipes là en Ligue 1 qui fait tourner le plus ces joueurs du centre de formation. Là, t'as du Truffert, t'as du Assignon, Omari, du Jacquet, du Bellocian. Ces mecs-là, ils ont 20, entre 20, 20 piges et ils sont titulaires au Stade Rennais. En fait, on a une grosse confiance au centre de formation et c'est pour ça qu'on a été peut-être 7 ou 8 fois d'affilée meilleur centre de formation de France. Quand tu regardes les stats avec les autres gros clubs, je pense qu'on doit faire partie du 5e meilleur centre de formation peut-être d'Europe.
Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça à début des années 2000, ouais, moitié début des années 2000. Le Stade Rennais, ils sont classés à chaque fois dans les 5 premiers des centres de formation, parce que c'est vrai, comme tu le dis, hein, il y a des joueurs incroyables qui sont sortis de ce club. Et au final, bah, les étoiles, on va dire, elles sont quand même un peu alignées, puisque vous faites une très bonne saison en 2017-2018. 2018-2019, vous gagnez la Coupe de France. 2019-2020, championnat arrêté. Au final, vous êtes troisième, vous accédez à la Ligue des Champions. Alors, pareil, petite musique pour te mettre dans l'ambiance. Ça fait quoi de la Ligue des Champions? C'est quoi le goût de la Ligue des Champions? Comment t'as savouré ça? C'est tu te dis c'est un peu incroyable quand même.
Franchement, un peu frustré parce que en fait, la Ligue des Champions, on la tombe sur l'année Covid. Donc, tu as les jauges de 5 000 personnes dans le stade. Donc,
Ouais,
moi,
je comprends.
j'avais été voir le premier match. Mais c'est pas pareil en fait quand t'as... Alors 5 000 personnes, franchement on a fait du bruit hein, pour 5 000 personnes, on a chanté comme jamais. Mais j'aurais aimé en fait voir la Ligue des Champions à Rennes avec un stade plein comme on a maintenant sur les. Je pense que même les joueurs, hein, franchement c'était. Je sais pas si on y retournera en Ligue des Champions, c'est l'objectif du club en tout cas. Mais bah, cette année ça va certainement être compliqué. Mais par contre. Moi, vivre la musique de la Ligue des Champions en tant que, on va dire, enfin, un peu enfant du club, tu vois, je suis arrivé, j'allais voir les matchs, j'avais 5-6 ans peut-être. Et ben, au bout, tu ratais pas un match, tu disais, ah ouais, ça y est, Rennes est arrivé en Ligue des Champions, là, je suis pas en train de rêver. Ben après, voilà, franchement, on a une poule qui est compliquée, on tape Chelsea. Et puis après, voilà, l'arbitrage, on a l'impression que Rennes dérange un peu toujours en Coupe d'Europe, surtout contre les clubs anglais. Ça fait quand même deux fois, deux, trois fois où, bah, par exemple, Arsenal, après le match contre Séville d'ailleurs, on les gagne 3-1 au Roazhon Park. La Cazette, au match retour, il doit être suspendu. Ils annulent sa suspension, on prend 3-0 à l'Emirates avec but de la Cazette. Bon. Ça fait moyen. Enfin, et en plus, ces matchs inversés, normalement, on devait jouer au Roazhon Park pour finir. C'est que des trucs comme ça. Après, Leicester, bon, on ne reviendra pas là-dessus. Je pense que c'est un des plus grands sketchs qu'il y ait eu sur l'Europa League, avec une main à l'aller et une main en retour.
Le
Mais
huitième,
bon.
ouais.
Mais bon,
On
voilà.
va en parler
Mais en tout cas, ouais, la Ligue des Champions, bah, tout le monde a envie d'y goûter au Stade Rennais et avec un stade plein, ça c'est sûr. Et il faut que les joueurs se donnent les moyens aussi. Je pense qu'on a une bonne équipe maintenant, de ce qu'on voit, franchement, c'est plus compliqué cette année, mais ils ont l'air de bosser aussi de bosser tous les jours, de bosser sereinement. Ça, c'est la chance aussi d'avoir un actionnaire qui est quand même stable, avoir un staff qui est aussi à peu près stable, parce qu'après Genesio, l'a quand même gardé 3 ans, je crois, ou 2 ans et demi, qui a fait du très bon boulot d'ailleurs. Mais je pense que la stabilité au Stade Rennais, ça amènera à quelque chose de vraiment très beau et assez rapidement. Après, voilà, il faut pas qu'on se monte la tête, il faut pas qu'on se prenne pour n'importe qui, il faut qu'on travaille toujours de la même façon. Et je pense que ça viendra tout seul. Je pense que Rennes, à l'heure actuelle, si on les met dans le top 5 des clubs français, ça choquerait personne. On va dire sur la
Justement,
régularité. D'ailleurs, j'ai vu
on
une
les
stat.
attend.
Bah, c'est ça. Maintenant, Rennes commence à faire peur. Franchement, quand on parlait des années du ventre mou, franchement, je jouais Rennes. À part au Roazhon Park, où au Roazhon Park, on était bon. Mais par contre, à l'extérieur, bah, ça gagnait pas un match. Donc, maintenant, c'est vrai qu'on fait un peu plus peur. Mais c'est parce que ça met du temps à grandir. Quand tu regardes, tu reprends de 2004 à 2024, tu vois, ça fait 20 ans. Et 20 ans, on a eu une fois la Ligue des Champions. Et franchement, la Ligue des Champions, merci le Covid, hein, parce que la Ligue des Champions, il y a Lille qui est juste derrière nous. Ils finissent largement mieux que nous. Donc ça s'arrête à la 28e journée, mais heureusement pour le Stade Rennais. Parce que franchement, on voyait que ça remontait fort.
Ok. Et du coup, toi, tu l'as, enfin, ça a été perçu comment ensuite, bah, après tous ces événements, bah, t'as les temps qui quittent le Stade Rennais pour un changement. C'est repris par Olvek, ensuite Cloarec. Toi, c'était quoi l'impression générale, voilà, ce changement? Tu l'as dit, Létang, c'était un personnage assez clivant. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de qui était positif, il le fallait, ou il y a quand même un peu des regrets de l'avoir, voilà, laissé partir?
Non, je pense que après voilà, nous c'est les bruits qui courent, on n'est pas dans le club ou quoi que ce soit, mais apparemment Létang voulait prendre beaucoup plus de place au Stade Rennais. Et après bon voilà, nous on a quand même Pinot qui maîtrise aussi son truc. Après on récupère Olvek parce que d'ailleurs après je crois qu'il part dans la foulée à Lille où il reprend Sylvain Armand d'ailleurs. Bon
Oui,
après
c'est ça.
à Lille je pense que ça marche un peu moins bien que ce qu'il a eu au Stade Rennais, même si Lille, ça reste quand même très costaud, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais après, bon, on récupère Olvek, malheureusement pour lui, il tombe malade et on récupère après Cloarec. Cloarec, il a l'air de maîtriser son sujet. On l'entend pas trop parler, c'est pas vraiment un communicant, c'est comme à Maurice, hein. En soi, on l'entend jamais. Et là, je pense que cette année, il se cache un peu. T'as peut-être pas tort.
Ouais, c'est pas faux, ouais. Qu'est-ce qui se passe, ouais.
Mais non, je pense qu'il on avait besoin que les temps partent. Je pense que ça devenait peut-être malsain à la fin. Et c'est pour ça que Pinot a décidé de le licencier. Enfin, je pense que ça a été un commun accord. Je ne sais plus exactement comment ça s'est fait. Mais bon, je pense pas qu'on pouvait continuer comme ça. Là, en fait, on avait tellement accompli des choses très rapidement. Il fallait retrouver peut-être une autre stabilité, un peu plus calme.
Ok. Du coup, bah, on va parler bah, du Rennes d'aujourd'hui. Alors, Rennes est quand même dans une position assez difficile en ce moment en championnat. Toi, qu'est-ce que t'attends cette saison? C'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de départs, il y a eu des nouvelles arrivées, il y a eu des changements de coach. Mais comme tu dis, aujourd'hui, Rennes, c'est sans doute une équipe qu'on attend plus haut. On serait pas choqué de les voir cinquième. C'est même quelque chose qui serait attendu. Alors, au moment où je te parle, ils ont gagné leur dernier match, mais bon, on attend quand même beaucoup plus de Rennes. Toi, t'attends quoi de cette équipe pour cette année 2023-2024?
En fait, je pense que niveau mercato, ça a été compliqué parce que on part quand même avec Théâtre. Bon, Théâtre, voilà, il sort d'une bonne saison. Omari, l'année dernière, ça commençait déjà à être un peu compliqué. Là, il est clairement pas en confiance. Donc, en fait, partir sans recruter un défenseur central, pour moi, c'était un peu mission suicide. Tous les Rennais le pensent. Hein. On voyait tous qu'il y avait besoin d'un défenseur central. Ça fait déjà quasiment 2 ans qu'on en a besoin d'un. J'ai l'impression que Florian Maurice, il s'est pas recruté un défenseur. Il s'est pas recruté des défenseurs. Alors lui, il va aller chercher des Gouiri. Ça, en attaque, on a ce qu'il faut. Même le fait, franchement, on est tous contents de l'avoir. C'est un très bon joueur. Mais par contre, en fait, les postes où on en avait vraiment besoin, bah, on trouve que ça a été limité. Alors par exemple, à Signon, il est là pour remplacer Amari Traoré, capitaine du Stade Rennais sur 2019. Enfin voilà, capitaine un peu emblématique. Le mec, c'était arrière droit très solide. Franchement, maintenant, il fait plaisir à la Real Sociedad. D'ailleurs, je pense que ça va peut-être être compliqué pour le PSG avec Amari Traoré. C'est un très bon latéral. Mais je pense que niveau mercato, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Après, sur le début de saison. Franchement, après, ben, si on regarde les stats, Genesio, il a 11 points, Stéphan, il est arrivé, en 6 matchs, il fait 11 points aussi. Mais J'ai même pas trop envie de regarder les stats parce que franchement, on s'est tiré des balles dans le pied. Moi, j'ai le but d'Omari contre Lorient en tête, où il met un contre son camp. Enfin, tu te demandes ce qui se passe dans sa tête. Il met un but contre son camp, ça tape dans son tibia, et voilà. En fait, on a donné beaucoup trop de cadeaux. On a donné des cadeaux. Par exemple, on gagne 2-0 contre le Havre à domicile, bah, on se prend 2-2. Donc, ça, ce match-là, je pense qu'il a fait beaucoup de mal parce que le début de saison est correct. Je crois que sur les 3 premiers matchs, on doit être à 6 ou 7 points. Bah, un bon début de saison. Après, on a le Havre. Le Havre, on se fait éteindre. Concrètement, on prend une clim. Et après, ça a commencé à être comme ça. Après, je pense qu'il y avait des soucis en interne parce que pour que Genesio nous dise oui, Lyon me manque ou quoi que ce soit. Et que là, je crois qu'il est prévu pour aller à Fenerbahçe ou un truc comme ça. C'est qu'en interne, il y a dû avoir une cassure quelque part. Peut-être que il y a un cycle qui s'est terminé parce que franchement, on n'a jamais vu jouer le Stade Rennais comme ça. Hein. Il y avait Terrier qui était en feu, Maillère qui était en feu. Enfin, franchement, c'était la régalade. Il y a des fois, t'as l'impression que c'était Manchester City ou le Barça sur des sessions de jeu. Ça allait en une touche de balle de partout. Bah, sauf que voilà, maintenant, quand on a un peu moins de confiance, eh ben, c'est tout de suite plus compliqué. Là, on a remis Stéphan pour avoir une certaine stabilité, je pense. Et voilà, il va retravailler sur un 4-4-2, essayer de récupérer une solidité défensive. Mais là, concrètement, ce qu'on attend. Donc, Kalimundo, ça y est, il commence à planter un peu parce qu'il y a des
Ouais, il a
points de sort
marqué
qui
là.
étaient dessus. Ouais, il a marqué doublé contre Guingamp et il marque ce week-end. Mais franchement, il y a des fois, quand il n'est pas en confiance, il apporte rien. Et ça, c'est dommage aussi de pas avoir voulu lui mettre une concurrence. Alors certes, il est jeune, mais par contre, sans concurrence, quel est l'intérêt de se pousser à l'entraînement ou quoi que ce soit? Moi, je pense que voilà, on attend au moins un attaquant. De ce que je regarde sur les émissions, ils attendent 5 recrues. Donc,
Ouais,
Lesmélou,
quand même.
j'aurais bien aimé, hein, parce que franchement, même si c'est 17 millions, pour moi, Lesmélou, c'est un joueur sous-coté de Ligue 1. Bah,
Complètement, je
après,
suis
voilà,
d'accord
après,
avec
il a
toi.
30
C'est
ans.
un beau joueur.
Mais ouais, c'est un beau joueur, le mec qui récupère des ballons tout le temps. Là, j'ai vu, ils étaient sur Matuziwa de Reims, très beau joueur aussi. Moïse Kean qui pourrait arriver en prêt, parce que oui, il y a eu l'affaire Matic. Alors là,
Ouais, ça aussi, il
c'est un
part.
sketch. Oh, ben, on le reverra jamais au Stade Rennais, mais après, il y a Lyon qui veut absolument le récupérer, sauf que Rennes veut pas le prêter, enfin, le veut pas le filer à Lyon. Après, voilà, c'est des trucs. Franchement, nous, en tant que supporters, on a juste une seule envie, c'est que ça se termine et il se casse et puis voilà, terminé. Il retourne à Londres, c'est sa femme qui veut faire les boutiques et bah, qu'il aille à Fulham. Et puis voilà, nous, on reprend un autre joueur à la place. Là, j'ai vu, il parlait d'en faire un prêt à la Juve où on met Matic et on récupère Keane pour la fin de la saison. Bah, pourquoi pas, en soi.
Ouais.
Mais que là, je pense que au PSG, il plantait. J'aimais bien le joueur au PSG. Bah, à Rennes, je pense qu'il y a moyen qu'il fasse des beaux petits trucs aussi. Ouais.
Je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord.
Après, voilà, pour la fin de la saison, bah je crois qu'on est à 6 points, 6 points de la 7e place, mais également à 6 points du premier relégable, donc on est 10e là. Là, on a un calendrier, on va dire, assez accessible sur les 3 prochains matchs, donc bah faut clairement prendre 9 points et qu'on fasse une série pour essayer au moins de recoller à la 7e place. Mais je pense que le top 5, à moins que vraiment devant. Ça bégaye un peu, j'y crois pas trop, mais je pense que ça va jouer. Rennes va jouer essayer de jouer entre la 5e et la 7e place, quoi. Et peut-être un petit parcours en Coupe de France, mais bon, comme d'habitude, on a un tirage hyper clément, on joue Marseille.
Exactement, pour rajouter un peu de sel à tout ça.
C'est ça,
Mais
exactement.
ok. Ah
Et
bah ouais,
puis,
bah je
ben.
souhaite tout le bien pour Rennes. Hein. C'est vrai que moi Rennes c'est une équipe que bah voilà c'est pas une c'est une belle équipe en fait et tu t'attends pas à ce qu'elles en soient là. Après il y a eu ce qu'il y a eu hein, les changements d'entraîneur et mais c'est vrai que ça va être compliqué cette saison. Après, on le voit, hein,
Mais
certaines équipes avec une bonne lancée,
ouais,
hein, Lens a
totalement.
réussi à remonter, c'est possible.
Après, je pense que le fait d'être passé à 18, c'est quand même aussi beaucoup plus homogène. Enfin,
Ouais.
moi, je regarde quand même quasiment tous les matchs les week-ends, ou au moins les multis. C'est rare qu'on voit des 3-0. Enfin, c'est souvent des 1-0, du 2-1. C'est des matchs qui sont quand même assez serrés quasiment tout le temps. Donc, ouais, ça va être compliqué, mais après, bon, bah, ça arrive. Hein. Franchement, si on me dit Rennes finit cette année 10e, on sort l'AC Milan en Coupe d'Europe, on gagne la Coupe de France, moi je signe tout de suite. Hein. On l'aura
J'imagine.
oublié cette saison.
J'imagine. Du coup, pour finir un peu, moi, je voulais parler de ta vision du supporter, hein. Déjà, toi, voilà, comment tu les as vus, tous ces événements qui sont passés? C'est vrai qu'il s'est passé pas mal de trucs aujourd'hui, on va dire, dans l'actualité avec les supporters, hein, que ce soit du côté de Marseille, on est du côté de Lyon aussi. Enfin, toi, cette situation par rapport aux autorités et surtout enfin, t'es dans un COP. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu ressens cette situation?
Bah en fait la Ligue ils sont bien contents de tout ce qui est utilisé les fumigènes pour faire de la pub et tout ça. Pour moi franchement en fait ça devient c'est une atteinte aux libertés hein, concrètement enfin rien que pour l'exemple on a été à Lens l'année dernière. On devait aller se balader voilà, dans la rue. On a été parqué de 14h à 20h. Enfin, le match était à 21h. De 14h à 21h, dans le parquage. On n'avait même pas d'accès à la nourriture, à la boisson. Bon, après, ils ont ouvert sur la fin. Mais en fait, on est parqué, c'est du parquage comme des animaux. Enfin, franchement, ça devient. Je suis content parce que j'ai connu les époques où tu faisais des déplacements assez libres. Tu partais en minibus et tout ça, tu partais avec tes potes. Il y avait franchement rarement de soucis. Là, en fait, avec leur climat, c'est comme ça que. Et en plus, il y a de plus en plus de personnes qui sont amenées à se déplacer ou qui veulent se déplacer quand on peut, parce que c'est quand même assez rare. Hein. La plupart du temps, les parquages, ils sont fermés dans quasiment tous les clubs de Ligue 1. Et je trouve ça d'ailleurs très dommage parce que faire un match à domicile, franchement, quand nous on joue Rennes-Nantes, quand les Nantais ils sont pas là, bah ça fait chier. On peut même pas, enfin tu peux pas charrier, rien du tout. C'est même pas une ambiance de derby en fait. Moi, franchement, ça va pas être amené à s'améliorer, je pense malheureusement. En plus, il y a les JO là qui vont arriver, donc il y a moyen que ça soit compliqué aussi à gérer tous ces flux. On voit bien que la France a du mal à être organisatrice d'événements, savoir organiser des événements, assurer la sécurité. Quand on fait de nous des déplacements en Coupe d'Europe, par exemple à Arsenal, il y a 5 000 personnes, il n'y a pas eu de débordement. Et les flics, ils n'ont rien dit non plus. Enfin, ils sont limite contents. Par exemple, même Toulouse, quand ils ont été à Liverpool, les flics ont dit, bah, ils ont mis l'ambiance dans la ville, c'était cool. Voilà. En France, jamais c'est possible de voir ça. Parce que déjà, là, on a bien vu ce que ça donnait à la finale de la Ligue des Champions. Ça a été une catastrophe. C'était une catastrophe. Donc moi, j'attends de voir ce que ça va donner, mais j'y crois pas du tout à un retour comme à l'ancienne. Après, bon, on va commencer à s'habituer comme ça, mais c'est malheureux. Franchement, on dit tous, hein, voilà, c'est liberté pour les ultras. On n'est pas des sauvages. On est là pour encourager notre équipe. Ben, ça c'est une atteinte aux libertés, mais tant que ça bougera pas. Et pourtant, il y a des gens hein, tout ce qui est ANS, par exemple l'Association nationale des supporters, voilà, il y a un regroupement, ils font remonter les voix de chacun. Et toujours est-il que voilà, avec un gouvernement en place, ça bouge pas.
Ok, ouais, je comprends. Et puis c'est malheureux de voir tous les arrêtés préfectoraux,
Ah
que les
bah
supporters puissent pas se déplacer. Enfin, ça fait partie du spectacle.
totalement
C'est
ouais.
enfin sans supporters pour moi. Et enfin, le football perd pas forcément de son intérêt, mais c'est pas la même chose. On l'a vu pendant le Covid, comment ça s'était passé. Bah, ça a pas la même saveur. Donc, espérons quand même que ça
Bah
s'améliore.
là j'avais vu par exemple pour Nantes là ils avaient fait leur hommage à. Je crois que c'était Thomas, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui était
Avec
décédé là contre les matchs de
décès de
Nice.
coup de couteau.
Oui, ouais, c'est ça. Bon, au final, ils ont craqué des torches voilà, pour lui rendre hommage. Et ben, ils ont pris quoi? Ils ont pris une fermeture de la tribune. Enfin, c'est aberrant. C'est aberrant. Et en fait, il n'y a plus de sentiment humain. C'est OK, il y a un fumigène, et ben, on ferme. Et on punit tout le monde. C'est ça qui est débile. Parce que tout le monde est content dans le stade à avoir des fumigènes, voilà, ça fait beau, ça, on va prendre des photos, c'est cool, on prend des vidéos. La Ligue, ou tous les diffuseurs, c'est pareil, ils sont bien contents. Et puis bah, derrière, c'est des amendes pour les clubs, c'est des interdictions de stade, et c'est les supporters, c'est les ultras qui sont pénalisés constamment.
Complètement. Bon Kylian, je te remercie pour ce moment. Je te remercie d'avoir partagé avec moi, de m'avoir partagé ta passion pour le Stade Rennais. Maintenant, on en sait plus. J'espère que ça va plaire à ceux qui vont nous écouter. Dans tous les cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la reprise du championnat et on va partir sur l'hymne du Stade Rennais. Voilà pour sortir en fanfare. Allez, au revoir à tous.
Masalou!